VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 27 avril 2016. Avec vous en direct de Washington, Jean-Roger Billon et Anastasie Toudièche. Tout d'abord les titres.
Primaire républicaine et démocrate, victoire sans partage pour Donald Trump d'un côté, Hillary Clinton de l'autre.
Soudan du Sud, la communauté internationale fait pression pour la formation rapide d'un gouvernement d'union nationale.
En République centrafricaine, l'identification des anciens combattants a commencé.
Au Cap-Vert, une fusillade au nord de Praia a fait 11 victimes.
Le nombre de combattants en Syrie et en Irak serait en forte baisse.
La Corée du Nord préparerait un cinquième essai nucléaire. Dans quelques minutes, l'économie et le sport, mais d'abord le journal.
Au Soudan du Sud, les Nations Unies ont réclamé hier la formation rapide d'un gouvernement d'union nationale après le retour à Juba de Riek Machar, qui a prêté serment hier comme vice-président. John Lyndon.
Le Conseil de sécurité appelle toutes les parties de former rapidement le gouvernement de transition. Le représentant adjoint sud-soudanais Joseph Moun Malok a répondu que ce gouvernement d'union pourrait être formé dans un jour ou deux après des consultations avec les différentes parties. L'ambassadrice américaine Samantha Power a souligné l'importance de lutter contre l'impunité, car selon elle, il ne peut y avoir de paix sans justice. Hervé Latsou, patron des opérations de maintien de la paix, estime que le retour de Riek Machar à Juba devrait permettre de commencer la transition. Il a aussi averti que la situation sécuritaire reste précaire et la situation humanitaire s'est aggravée en ampleur et en urgence. Les 15 pays membres du Conseil exigent le respect des droits humanitaires et que les parties facilitent la livraison de l'aide à la population meurtrie et accordent la liberté de mouvement à la mission de l'ONU sur place.
Au Burundi, une année vient de s'écouler après la candidature du président Pierre Nkurunziza et le début des manifestations. Plus de 500 personnes ont été tuées et plus de 270 000 personnes sont réfugiées dans de nombreux pays limitrophes. Mais dans les quartiers contestataires, la vie reprend petit à petit. Notre correspondant Christophe Nkurunziza s'est rendu dans les quartiers de Chibitoke et de Mutakura, au nord de Bujumbura.
Mutakura, 13e avenue, des habitations restent fermées tandis que des boutiques ont ouvert. Très peu de personnes sont visibles. Les rares passants ne veulent pas parler aux journalistes. Ils ont peur de relater ce qu'ils ont vécu et vu il y a une année. Mais l'artère principale qui divise les quartiers Chibitoke et Mutakura grouille de voitures et des taxis communément appelés tuk-tuk. Mais cette jeune fille que nous avons rencontrée, la vingtaine, affirme que dès 18h, elle ferme automatiquement sa maison. Cette femme remercie le bon Dieu d'être toujours vivante. Elle affirme que la situation s'améliore. Au moment des manifestations, dit-elle, elle avait même peur d'envoyer les enfants à la boutique d'à côté, car elle n'était pas sûre qu'ils allaient rentrer. Aujourd'hui, elle remercie le bon Dieu, mais elle affirme que les gens refusent de venir habiter les maisons gratuitement. Mais des gens commencent à rentrer petit à petit, même s'ils ont peur, indique-t-elle. Beaucoup de Burundais placent l'espoir dans les futures négociations qui commencent au début du mois de mai à Arusha, en Tanzanie. Mais le début de ce dialogue ou négociation coïncide avec l'ouverture par la Cour pénale internationale d'un examen préliminaire sur les violences au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
À Bangui, en République centrafricaine, la MINUSCA et le gouvernement lancent aujourd'hui les opérations d'identification socioprofessionnelle des anciens combattants. Le point tout de suite avec Freeman Sipila.
À la différence des activités du pré-DDR réalisées dans certaines régions du pays, les 3000 combattants attendus à l'issue de cette identification bénéficieront du projet Réduction des violences communautaires. 1500 seront recensés parmi les anti-balaka et 1500 autres parmi les groupes d'autodéfense de PK5. Pour Diane Cornet, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, il s'agit d'un projet très important pour l'avenir des combattants et de leur pays, la République centrafricaine. Satisfaction des membres des groupes armés, estimant que ce nouveau projet pourrait contribuer à la cohésion sociale et changer leur vie en attendant le processus DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement proprement dit. L'opération lancée aujourd'hui dans le 4e arrondissement devra se poursuivre dans le 3e arrondissement et dans les zones périphériques de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
au Cap-Vert. 11 hommes, dont 8 militaires, ont été tués par balle dans un centre de télécommunications au nord de Praia, la capitale, ont annoncé les autorités, soulignant qu'un soldat porté manquant était fortement soupçonné, appelant la population au calme et à la sérénité. Le gouvernement précise que, contrairement à des rumeurs qui ont couru, il n'y a pas eu de fusillade dans la ville de Praia et que les aéroports fonctionnent normalement. Aucun aéroport n'a été fermé. Selon les premiers éléments, ces événements ont pour origine des motivations personnelles, ce qui exclut l'hypothèse d'un attentat contre l'État du Cap-Vert, ajoute le gouvernement. Sur les 3 civils décédés, 2 sont des techniciens de nationalité espagnole qui se trouvaient en mission professionnelle dans ce centre militaire. L'autre est de nationalité capverdienne et travaillait avec l'équipe espagnole, a-t-on indiqué. Un porte-parole du ministère espagnol des Affaires étrangères a confirmé la mort de 2 Espagnols dans la fusillade, sans autre précision.
Le gouvernement mozambicain s'est expliqué pour la première fois publiquement hier sur ses dettes cachées d'un montant de 1378 milliards de dollars, assurant qu'elles ont notamment servi à financer des installations maritimes. La découverte de ces dettes a provoqué mi-avril la suspension de l'aide du Fonds monétaire international au Mozambique, qui est l'un des 10 pays les plus pauvres au monde. Maputo a reconnu mardi n'avoir pas tenu informé à l'époque le FMI sur ses emprunts, que le porte-parole du gouvernement, Moussinho Saïd, a détaillé. La décision du FMI de suspendre son aide au Mozambique a été prise en attendant une transparence totale et une évaluation des faits, avait expliqué alors la chef du département Afrique de l'institution Antoinette Sayé. La semaine dernière, le premier ministre mozambicain, Carlos Agostinho, s'était rendu d'urgence aux États-Unis, où il avait rencontré Christine Lagarde, la directrice du FMI. Les autorités mozambicaines avaient alors admis avoir dissimulé l'existence de plus d'un milliard de dollars de dettes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Monde aujourd'hui, nous commençons aux États-Unis, où le milliardaire Donald Trump a triomphé hier dans les 5 primaires républicaines organisées sur la côte est américaine, tandis que Hillary Clinton a gagné 4 scrutins démocrates, distançant de façon décisive son rival Bernie Sanders. Donald Trump est arrivé premier dans le Maryland, la Pennsylvanie, le Delaware, le Connecticut et Rhode Island. Ses marges de victoire sont extraordinaires, dépassant 50% voire 60% des voix selon les États contre le sénateur du Texas Ted Cruz et le gouverneur de l'Ohio John Kasich. La bataille se déplace maintenant dans des États a priori moins favorables aux milliardaires, à commencer par l'Indiana, dans une semaine. Pour l'homme d'affaires, l'important n'est pas seulement de gagner les primaires restante, il lui faudra s'imposer avec un très fort pourcentage dans les 10 derniers scrutins s'il veut atteindre les 1237 délégués et ravir l'investiture de façon incontestable avant la convention de Cleveland en juillet.
Hillary Clinton a quant à elle empoché les grands États du Maryland et de la Pennsylvanie, ainsi que le Connecticut et le Delaware. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, n'a gagné que dans le petit Rhode Island. Avec ses 4 victoires hier, Hillary Clinton a quant à elle engrangé donc une avance quasi insurmontable sur Bernie Sanders, qui aurait besoin de gagner environ 85% des délégués restants pour la surpasser. S'exprimant à Philadelphie, en Pennsylvanie, où aura lieu la convention démocrate, Hillary Clinton a affiché la confiance des vainqueurs, entrant en scène au son de Eye of the Tiger, la chanson du film Rocky, étendant la main aux électeurs de Bernie Sanders. Que vous souteniez le sénateur Sanders ou moi, ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise, a-t-elle ajouté. Et elle a attaqué les républicains et Donald Trump pour leur position anti-musulman, leur déni du changement climatique ou leur contestation du droit à l'avortement. Mais Bernie Sanders n'a pas dit son dernier mot à Nastasia.
Absolument. Bernie Sanders reconnaît, si le sénateur du Vermont reconnaît que ses chances sont désormais minces, il promet quand même de rester en course jusqu'à la fin, en particulier pour la primaire de Californie le 7 juin, la plus importante de l'année en nombre de délégués. S'exprimant lors d'un meeting en Virginie-Occidentale, il n'a fait aucune allusion à un éventuel retrait. après. Presque tous les sondages montrent que nous battrons Trump, a-t-il répété. Mais il pourrait revoir sa stratégie pour la fin de campagne en visant peut-être un rôle clé dans l'élaboration de la plateforme officielle du Parti démocrate.
Tout autre chose à présent, le nombre de combattants étrangers entrant en Irak et en Syrie pour rejoindre le groupe État islamique serait en forte baisse depuis environ un an. C'est ce qu'a déclaré hier le général américain Peter Gersten. Selon lui, quand il est arrivé à Bagdad il y a un an, de 1500 à 2000 combattants étrangers rejoignaient les rangs de l'État islamique chaque mois. À présent, nos estimations sont tombées à environ 200 par mois et nous voyons davantage de désertions parmi ces combattants, a-t-il ajouté.
La Banque mondiale n'est pas encore prête à aider l'Iran en dépit de l'allègement des sanctions contre Téhéran et des besoins économiques criants du pays. L'institution semble de fait réticente à se réengager dans un pays où elle avait cessé tout nouveau projet en 2005 pour se mettre en conformité avec les sanctions internationales imposées à Téhéran pour son programme nucléaire. Principale raison des hésitations de la banque, les États-Unis soufflent le chaud et le froid sur la portée de l'allègement des sanctions obtenue par l'Iran en vertu de l'accord sur le nucléaire de juillet 2015, entré en vigueur en début d'année.
Et la Corée du Nord, pour terminer, elle a annoncé officiellement aujourd'hui l'ouverture le 6 mai d'un congrès de son parti unique au pouvoir, le premier en près de 40 ans, dont de nombreux observateurs craignent qu'il ne soit précédé par un cinquième essai nucléaire.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place à la Minute Éco maintenant avec Nathalie Barge. Bonjour Nathalie.
Télécommunications en RDC. Selon Jean-Michel Garoutecht, le directeur général d'Orange RDC, l'entreprise vise plus de 10 millions d'abonnés dans le pays. Notre station partenaire à Kinshasa, Top Congo FM, lui a tendu le micro.
Tigo était préférentiellement à Kinshasa et dans le Bas-Congo, où ils étaient très très forts, probablement même un des leaders sur cette partie. Orange, nous étions présents dans toutes les provinces, et donc en fusionnant nos réseaux, on va donner à toute la clientèle une couverture beaucoup plus large.
La firme d'investissement Atlas Marin a reconnu hier être en discussion avec un consortium d'investisseurs pour une acquisition des 62,3% de part de Barclays dans le capital de Barclays Africa, rapporte l'agence Ecofin. La discussion concerne un éventuel rapprochement entre Barclays Africa et Atlas Marin. Les entreprises françaises veulent nouer un partenariat durable en Côte d'Ivoire, a annoncé mardi à Abidjan le président du patronat français. Si la France reste le premier investisseur en Côte d'Ivoire, sa part de marché y a nettement baissé, passant de 28% à 11% en 10 ans, a déclaré Pierre Gattaz à la tête d'une délégation de 150 chefs d'entreprise. À partir de la Côte d'Ivoire, vous avez une plateforme qui peut vous permettre de rayonner facilement dans toute l'Afrique de l'Ouest, a répondu le président du patronat ivoirien, Jean Kakou Diagou.
C'était la Minute Éco. Merci Nathalie Barge. Le sport tout de suite, c'est avec Tatiana Mousseau. Bonjour Tatiana.
Bonjour Anastasie.
Première finale de la Ligue des Champions hier soir en Europe.
0-0 entre Manchester City et le Real Madrid. Une confrontation pour la première demi-finale aller de la Ligue des Champions de football de son histoire.
Et ce mercredi, l'autre demi-finale.
Implacable rouleau compresseur en Espagne et en Europe, l'Atlético Madrid espère continuer à bousculer l'ordre établi mercredi en demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich.
Où l'on reparle d'Usain Bolt en athlétisme bien sûr.
Le sextuple champion olympique jamaïcain courra son premier 100 mètres en Europe à la Réunion d'Ostrava, en République tchèque. Ce sera le 20 mai. Le sprinter, également 8 fois champion du monde et le détenteur des records du monde du 100 mètres en 9 secondes 58 et du 200 en 19 secondes 19. Le Jamaïcain a depuis pris du retard dans sa préparation en raison d'une cheville tordue lors d'un accident. Pour la jeune Belge Femke van den Driesch, convaincue de dopage technologique aux mondiaux de cyclomoteur en janvier dernier. Et enfin, NBA, championnat de basket nord-américain avec vous, Anastasie.
Les Charlotte Hornets ont tenu les Miami Heat en respect, 89 points à 85. Les Portland Blazers ont battu les LA Clippers, 92 points à 84. Et enfin, les Oklahoma City Thunders l'ont remporté face aux Dallas Mavericks, 118 à 104 points.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. C'est Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Anastasie Tudiech avec vous. Nous passons tout de suite à nos dossiers du jour. Et nos dossiers du jour nous mènent d'abord au Mali, où suite à la disparition de 26 pistolets mitrailleurs dans les magasins d'armes, le chef d'état-major de la garde nationale a été suspendu de ses fonctions, tout comme le commandant du même groupement. Kassim Traoré nous en dit plus.
Depuis l'annonce de la réintégration des ex-combattants dans l'armée, on assiste à toutes sortes de gymnastiques. Du côté des FAMA que des groupes armés. Chez les FAMA, on assiste à des vols d'armes. Ce sont des militaires maliens qui s'adonnent à cette pratique. Toute chose qui peut dépasser tout entendement, mais qui est une réalité dans les camps, surtout à Bamako. C'est ainsi qu'au niveau du camp de la garde nationale, 26 pistolets mitrailleurs, communément appelés des PM, ont disparu des magasins d'armes. La hiérarchie militaire n'est pas passée par 1000 chemins. Elle a suspendu le chef d'état-major de la garde nationale ainsi que le commandant du même groupement. En tout cas, de leur côté, les chefs rebelles sont en train d'acheter des armes pour les donner à des gens qui ne sont pas des combattants. Après avoir fourni des listes de combattants fictifs dans le cadre de la réintégration des ex-combattants dans l'armée malienne, les ex-rebelles achètent les armes pour deux raisons. Armer les remplaçants des éléments morts ou qui sont retournés dans leur pays respectif. Et donner des armes aux nouvelles recrues qui ont acheté des cartes de combattants dans les régions nord du Mali. Tout cela se passe dans les perspectives du cantonnement ou la réintégration qui se fait sur la présentation d'armes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Congo-Brazzaville, l'aide humanitaire s'organise peu à peu pour secourir les habitants du Poul, quartier sinistré au sud de la capitale, Brazzaville, suite à des bombardements de l'armée. Nguela Ngoussou.
Du riz, de l'huile végétale, du haricot, du poisson salé, du lait et des non-vivres, essentiellement des habits. C'est la première composition de l'aide qui se met en place pour des milliers de sinistrés du Poul, département en proie à des bombardements d'hélicoptères il y a encore quelques semaines. Monseigneur Louis Porterambouyou, évêque de Kinkala, qui reçoit ses dons, confirme la fin des bombardements et la possibilité de Caritas Congo de se mouvoir dans les localités sinistrées.
Pour le moment, nous n'entendons rien, mais maintenant il faut l'évaluer sur place et nous souhaitons que cela continue ainsi, que la paix revienne et que les gens, les populations puissent retrouver leur tranquillité et vivre en pensant à leur avenir, en pensant à leur famille. C'est tout ce que nous souhaitons. Vous savez, quand des personnes sont déplacées, il y a tous les dispositifs, vous voyez, des déplacements, parce qu'ils viennent comme ça, les bras ballants, si on peut parler ainsi. Et donc, que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la nutrition, eh bien, tout cela, finalement, constitue des besoins. Oui, des personnes à prendre en charge, il y en a qui sont encore déplacées dans plusieurs endroits. De Mayama, par exemple, il y a une centaine qui est allée à Nkoué et une centaine qui est allée du côté de Kindamba, sans compter ceux qui sont allés dans les forêts.
Guy Brice Parfait-Kolila, député du Poul et un des donateurs, appelle à l'ouverture d'une enquête parlementaire sur la situation dans le Poul.
Là où il y a deux ou trois personnes qui fuient leur maison, c'est déjà un drame. Imaginez que vos enfants de 2 ans, 3 ans, avec cette période de pluie, puissent courir dans les forêts. Maintenant, ici aussi, je profite de cette occasion de lancer un vriban au président de l'Assemblée nationale, qu'il prenne son courage, qu'il ne protège pas son fauteuil. Parce que ce que j'ai constaté, même les fils du Poul, ministres qu'ils soient, se taisent parce qu'ils ont peur de perdre leur fauteuil. Mais c'est grave. Ils ont les yeux fermés, les oreilles bouchées. Je constate seulement, je ne critique pas. Je dis tout simplement aux parlementaires tout court qu'ils se saisissent de la demande que j'ai déposée pour qu'ils ouvrent une commission d'enquête parlementaire en toute impartialité qui fera la lumière sur tout ce qui se passe. C'est ce que j'attends du président de l'Assemblée nationale.
Le 19 avril, une mission humanitaire de Caritas Congo s'était rendue dans le Poul et a pu identifier plus de 2000 personnes déplacées. Elles sont actuellement dans le besoin, à tel point que les enfants présentent déjà des signes de malnutrition. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur le premier anniversaire de la grave crise politique et humanitaire au Burundi, déclenchée par le troisième mandat contesté de Pierre Nkurunziza à la tête du pays. Un an après, l'espoir d'une sortie de crise est-il toujours permis? Peut-on parler d'un échec de la communauté internationale? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le franc CFA à nouveau au centre d'un débat en Afrique occidentale et centrale. Certains chefs d'État africains ainsi que certains experts appellent à une réforme d'une monnaie qu'ils jugent coloniale. Des précisions tout de suite avec Nanit Talani.
En Afrique occidentale et centrale, des voix s'élèvent pour dire que la région est devenue trop grande pour le franc CFA. Cette monnaie ne convient plus aux anciennes colonies. Elle devrait être détachée de l'euro ou tout simplement abandonnée. L'économiste ivoirien Séraphin Praoyao a écrit un livre sur le sujet en 2012.
Le taux de change d'un pays doit tenir compte du poids de ses partenaires. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement que la zone euro qui commerce avec eux, il n'y a pas que les Européens qui commercent avec nous. Donc, lorsque nous allons allumer cette nouvelle monnaie à un panier de monnaie, nous allons faire la pondération, effectivement, hein, avec le poids que représentent les Européens, le poids que représentent les Américains, et le poids que représentent les pays asiatiques.
La France a créé le franc CFA pour ses colonies en 1945. Elle garantit un taux de parité fixe avec l'euro. Mais en retour, les États membres doivent déposer la moitié de leurs réserves de change au trésor français, ce qui n'est pas toujours à l'avantage des pays de la zone franc. Les 14 pays qui utilisent le CFA sont divisés en deux unions monétaires, mais chaque pays peut décider d'abandonner la monnaie à tout moment. Les deux Guinées et le Maroc ont créé leur propre monnaie à l'indépendance. Le Maroc est cité comme un exemple de réussite, tandis que la Guinée, avec ses années de forte inflation chronique, ne l'est pas. Les économistes soulignent les risques que comporte le fait d'avoir sa propre monnaie, en citant comme exemple les crises financières actuelles au Nigeria et au Zimbabwe. L'économiste ivoirien Antoine Awa Junior.
Le franc CFA a permis aux pays membres d'avoir une monnaie assez stable, assez forte, qui leur permet d'échanger avec l'extérieur et de stabiliser leur économie.
Même les critiques du franc CFA reconnaissent qu'il y a des risques.
Il va falloir que les dirigeants, effectivement ceux qui ont les rênes et l'obligation de diriger cette monnaie-là, doivent mieux la gérer. Sinon, ce n'est pas parce que nous quittons la limace qu'automatiquement nous devenons émergents. Non.
L'analyste Paul Melli dit que les grandes économies comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire pourraient quitter si elles le voulaient. Mais cela est peu probable. Pour les petits États comme le Bénin et le Togo, ou pour les pays du Sahel qui sont très exposés au risque de sécheresse tous les deux ans, l'idée de rompre d'eux-mêmes les laisserait très exposés à la pression. Il serait beaucoup plus difficile pour eux de maintenir une monnaie stable et la position monétaire par eux-mêmes.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Ici à Washington DC, l'organisation non gouvernementale Freedom House publie aujourd'hui son rapport annuel sur l'état des libertés dans le monde en 2016, tout particulièrement sur le respect des libertés politiques et civiles dans près de 210 pays et territoires dans le monde en 2015. Et pour ce qui est de la liberté de la presse, Freedom House note une nette amélioration en Afrique, à l'exception du Burundi. John Lyndon s'est entretenu avec Sarah Repucci, qui est responsable pour la presse du projet Freedom House.
Au niveau global, nous avons trouvé une manipulation de la presse pour des raisons politiques, des acteurs étatiques et non étatiques aussi, et en Afrique aussi. Alors, il y a surtout des problèmes avec la pression sur les journalistes par les acteurs étatiques et aussi beaucoup de violence, surtout en Afrique cette année.
Alors, quels sont les pays africains où la liberté de la presse est vraiment le plus en danger?
Cette année, surtout au Burundi, nous avons beaucoup de concerns, mais aussi il y a des problèmes en Afrique de l'Est et du Sud, au Uganda, au Rwanda, au Congo, la République démocratique du Congo.
Parlant du cas spécifique du Burundi, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez observé et qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, le président du Burundi a changé les termes de son présidence et il y avait sa réélection. Et après cela, nous avons vu beaucoup de protestations, beaucoup de manifestations et beaucoup de violences. Et nous avons vu un effet surtout sur les journalistes de cette violence et des changements. Le gouvernement a fermé toutes les stations radio qui avaient un peu d'indépendance du gouvernement. Et nous avons vu 50 journalistes qui ont quitté le pays. Aussi, plus de violence à cause de la violence, des menaces aux journalistes. Nous avons vu un croissement de censement quand les journalistes, ils ont censé ce qu'ils écrivent.
Alors, est-ce que vous pensez que la presse burundaise va continuer à jouer son rôle dans la promotion de la démocratie dans ce pays au regard de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire les menaces, les fermetures de radio, les censures? Est-ce que la presse burundaise sera assez forte pour continuer?
Maintenant, j'ai peur que ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez de journalistes maintenant qui restent dans le pays et qui peuvent faire son travail. Pour avoir plus de démocratie au Burundi, il faut avoir de la protection pour les journalistes, de la protection pour les journalistes qui veulent retourner au pays et aussi des efforts pour reconstruire les bureaux de médias qui sont fermés.
Alors, à votre avis, qu'y a-t-il lieu de faire pour qu'on ait une presse forte et indépendante, aussi bien au Burundi que dans la plupart des pays africains?
Au début, il faut un cessement, une termination de violence et une termination de menaces contre les journalistes.
Sarah Repucci, responsable presse du projet Freedom House.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
En Afrique, c'est chez moi. Afrique de fiers guerriers. Afrique de jolies femmes.
Zagara wa ibo barabawo wala la wala kun zagara.
la musique de Serge Beno pour vous souhaiter une bonne journée. C'était Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington. Merci pour votre attention. Merci aussi à toute la rédaction. Georges Léonard Sagnot a assuré la mise en onde de ce programme, assisté à la console de Howie Smith. Je suis Anastasie Tudiech. Très belle journée à l'écoute de nos programmes.